Bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue à la deuxième séance de ce cycle de conférences autour de l'exposition Le papyrus dans tous ses états de Clovis à Cléopâtre, exposition que vous avez dû maintenant visiter. Et donc, je vous le rappelle, ces différentes conférences, il y en aura d'autres en octobre, tous les mardis à la même heure, ont pour but de traiter d'un sujet de l'exposition, d'un point, d'un secteur, disons, de l'exposition. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Valérie Schramm, qui est l'auteur d'une thèse remarquable sur l'arbre et le bois dans l'Égypte gréco-romaine et qui s'est spécialisée dans, on va dire, dans le monde végétal. Et du coup, y avait-il personne plus compétente pour traiter du papyrus que Valérie Schramm? Valérie Schramm qui, après un séjour, après avoir occupé un poste ici d'ATER au Collège de France et un séjour ensuite à Oslo, est maintenant chargée de recherche au CNRS. Voilà, je suis très heureux de la voir revenir au Collège de France et impatient de l'entendre dans sa conférence intitulée « Sur le Nil s'élève une forêt sans branches, trois petits points ».
Sur le Nil s'élève une forêt sans branches, une futaie sans feuillage, une moisson aquatique. Délicate chevelure des marées, plus souple que des fourrés, plus rigide que des herbes, matière à la fois pleine et aérée, moelle imbibée d'eau, bois spongieux dont la rigidité à la manière d'un fruit est dans l'écorce. La mollesse dans le cœur, d'une élévation légère, elle se soutient d'elle-même, c'est d'une inondation crasse le plus beau fruit. Voilà en quels termes Cassiodore, intellectuel romain du VIe siècle, décrivait la plante qui, selon ses mots, a conduit l'ingénieuse Memphis à concevoir une invention si belle qu'elle en vint à habiller les archives du monde entier, à savoir le Cyperus papyrus. C'est de cette plante, évoquée rapidement par Jean-Luc Fournet la semaine dernière, que j'ai été aujourd'hui donc invitée à vous parler, et je l'en remercie. Plante étonnante à plus d'un titre, dont la transformation en support d'écriture n'est qu'un des aspects les mieux connus, alors même que cette dernière n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Dans la mesure où une des volontés qui a guidé la conception de l'exposition « Le papyrus dans tous ses états » de Cléopâtre à Clovis était de repousser les limites géographiques et chronologiques de la papyrologie en tant que champ disciplinaire traditionnellement confiné à l'étude des textes provenant de l'Égypte grecque, romaine et byzantine, je vous propose ce soir un voyage exploratoire autour de la plante elle-même, son milieu, sa culture, ses mille et un usages, en essayant d'apporter des éléments qui permettront peut-être de mieux comprendre le paradoxe qui l'entoure. Comment cette plante, qui devient au commencement du IIIe millénaire le symbole de la Basse-Égypte dès la première dynastie pharaonique, cette plante qui devient un rouage essentiel à l'ensemble de l'administration égyptienne, gréco-romaine puis byzantine, cette plante qui a permis de transmettre la mémoire des œuvres des anciens, cette plante qui constitue enfin un élément aussi prégnant du paysage nilotique ancien. Comment cette plante a pu, en 200 ou 300 ans maximum, au tournant du premier millénaire de notre ère, sombrer aussi soudainement dans l'oubli? Et je n'exagère pas. Il n'y a qu'à citer un extrait du récit que livre le moine dominicain Félix Fabry de son voyage en Égypte en 1483. Il écrit, dans un passage consacré aux bananiers, « Je vis plusieurs de ces arbres en Égypte, et je mangeais de ces fruits à satiété. Certains disent également que ces arbres sont des papyries, et que dans l'Antiquité, on écrivait des lettres sur ces feuilles séchées. Les feuilles ont en effet des lignes droites, comme toutes préparées pour écrire. » Commençons donc par un peu de botanique. Si vous faites une recherche sur Internet en tapant simplement papyrus, ou papyrus plante, vous tomberez probablement sur le Cyperus alternifolius. Alors s'il est beaucoup plus facile à maintenir en vie chez soi que le vrai papyrus du Nil, sachez qu'il n'est en réalité qu'un cousin vendu de manière abusive sous le nom de papyrus dans la plupart des jardineries. Les deux plantes, qu'on appelle communément des souchets, appartiennent à la même famille, mais à des espèces différentes. À y regarder de plus près, vous verrez que le souchet à feuilles alternes à gauche a de longues feuilles lancéolées, tandis que le papyrus du Nil, autrement appelé souchet à papier, porte quant à lui des ombelles faites de fins filaments. Et si vous voulez être sûr de vous, vous pouvez aussi porter attention à la forme de la tige. Celle de l'alternifolius est de section ronde, celle du vrai papyrus, ici à l'écran, de section triangulaire. Le Cyperus papyrus, qui doit son nom scientifique moderne au naturaliste suédois Carl von Linné, l'inventeur du système moderne de nomenclature binominale au XVIIIe siècle, appartient à l'immense famille d'herbacées, des Cyperacées, qui regroupe plus de 600 espèces différentes de Cyperus, appelées aussi souchées, toutes des plantes vivaces, poussant en eau peu profonde et présentant donc le plus souvent une tige à section triangulaire, l'alternifolius étant une des rares exceptions. Le Cyperus papyrus, que j'appellerai donc dorénavant simplement papyrus, est originaire des zones humides d'Afrique centrale et tropicale et de Madagascar. Et comme d'autres plantes d'origine tropicale avec lesquelles il partage un mode de photosynthèse particulier dit en C4, il fait preuve d'une exceptionnelle productivité, à condition de bénéficier d'un ensoleillement constant et d'un apport suffisant en eau sur son système racinaire. Comme vous le voyez sur ce dessin à droite, la plante est essentiellement constituée de quatre parties. Les tiges, avec leurs ombelles pour la partie visible, et le système racinaire qui est quant à lui immergé. Dans des conditions favorables, qui ne sont pas forcément réunies d'ailleurs au Collège de France, la tige, faite d'une moelle blanche recouverte d'une fine écorce verte, atteint facilement 3 à 5 mètres de haut. Au fur et à mesure que cette tige grandit, elle élève une inflorescence en ombelle qui s'ouvre lorsque la tige a atteint sa hauteur maximale et déploie alors de longs filaments, produisant, sur certaines tiges seulement, des ensembles de petits épis que l'on voit mieux sur ces images. Après avoir atteint sa maturité, la tige ploie sous le poids de l'ombelle et finit par se casser pour retomber sur le système racinaire où elle va se décomposer dans l'eau et contribuer à former une masse de tourbe. Sur un site très productif d'Afrique tropicale, en Ouganda, on a mesuré le temps écoulé entre l'apparition d'une nouvelle tige et sa mort, et le temps est estimé à près de 5 mois. Dans des zones moins productives, la tige peut vivre jusqu'à un an avant de mourir. Un plant de papyrus est donc constitué de plusieurs de ces tiges qui poussent de manière continue à partir du rhizome et présentent donc tous différents niveaux de maturité. La partie immergée de la plante cache quant à elle le rhizome, c'est-à-dire une sorte de tige qui s'étend quant à elle horizontalement et permet à la plante de se propager tout en l'ancrant au sol grâce aux racines. L'ensemble de système, fait donc de l'entrelacs des racines, des rhizomes et de la tourbe des tiges décomposées, forme une natte qui peut faire plusieurs mètres d'épaisseur. Et il arrive, lorsque les eaux montent, que des morceaux de cette natte se détachent, formant alors des îles flottant sur les étendues d'eau. C'est le cas dans les marais du Sud, le long du Nil Blanc, au Soudan du Sud, une des zones humides les plus vastes du monde que vous avez ici à l'écran, où, comme dans la plupart des marécages africains permanents, c'est le Cyperus papyrus qui est l'espèce dominante. S'il peut être considéré comme une nuisance parce que les îles qu'il crée bloquent les chenaux de navigation, il détient là un rôle écologique important puisqu'il permet de contrôler les flux saisonniers d'eau et de nutriments, filtre les polluants et crée ainsi un milieu protégé pour la faune locale. En recherchant des photos de cette faune, je suis tombée sur un blog d'où j'ai tiré ces quelques photos dont l'autrice relate la traversée des marécages du delta de l'Okavango au Botswana, au milieu des papyrus, des crocodiles, des hippopotames et rhinocéros, qui ne sont que les habitants les plus évidents de ces forêts aquatiques. Mais surtout, ces récits ne manquent pas d'évoquer les scènes représentant les marais du Nil dans l'iconographie funéraire égyptienne. Scènes de chasse, comme celle-ci, qui est au British Museum, ou scènes naturalistes, comme celle-là, conservée au Louvre, qui semblent se construire, en l'occurrence, entièrement autour d'une ombelle stylisée de papyrus, elle-même faite d'une multitude d'ombelles en cours de maturation. Tout autour de cette ombelle se déploie un riche catalogue de la faune des marais à papyrus de l'Égypte ancienne, avec parmi les volatiles des canards, des huppes, hérons et même une chouette, tandis que circulent sur les tiges des genettes et des mangoustes ichneumons appâtés par les nichées qui tiennent dans un équilibre qu'on imagine fragile sur les ombelles de ces papyrus. Derrière le motif iconographique, il ne faut pas oublier qu'il y a une réalité qui devait être encore bien vivante dans l'Égypte gréco-romaine. La tradition de la chasse dans les marais à papyrus se trouve en effet bien attestée dans la région du Fayoum, qui, avec le delta, est l'une des deux grandes régions de production du papyrus dans l'Antiquité. Deux régions qui se distinguent néanmoins l'une de l'autre en ce que la première est une zone de production sauvage qui dépend fortement d'apports en eau indirects, l'autre, la seconde, dans le delta, une zone de production où la plante est essentiellement cultivée pour la manufacture du papier. Explorons d'abord ensemble la région du Fayoum, oasis artificielle, alimentée en eau par un bras du Nil, aujourd'hui appelé le Bahr Youssouf, qui déverse, lorsque la crue le permet, les eaux de débordement du fleuve dans un vaste système de canaux irriguant toute la région et terminant dans un lac. Cette région est particulièrement importante pour les papyrologues parce qu'elle a livré des dizaines de milliers de textes sur papyrus qui en font la région la mieux documentée d'Égypte pour l'époque ptolémaïque. Or, c'est à cette époque que les colons gréco-macédoniens, suite à la conquête d'Alexandre le Grand à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, s'installent justement dans la région et entreprennent de vastes travaux d'urbanisation et d'aménagements agricoles. Pour récupérer des terres dans cette région marécageuse, ils développent notamment des systèmes de drains et de canaux, en rouge ici sur cette carte, systèmes qui contribuent nécessairement à la modification du milieu fragile dans lequel pousse le papyrus. Ce type de travaux, le devis pour le creusement de canaux sur un vaste domaine concédé par le roi lui-même exposé ici dans l'exposition, on est sans doute l'un des meilleurs exemples. Pour autant, en bordure du désert, des zones marécageuses sauvages demeurent, zones que les Grecs ont appelées drumoi, vraisemblablement une traduction de l'égyptien shtau, qui désigne littéralement, en grec comme en égyptien, des zones boisées ou fourrées de roseaux et de papyrus, offraient autour de plans d'eau des réserves de pêche et de chasse, ainsi que des lieux de pâturage pour le bétail. Ces zones qui n'apparaissent en tant que telles que dans le sud du Fayoum sur la carte ici présentée auraient été en réalité beaucoup plus répandues dans le paysage du Fayoum d'après les mentions qui apparaissent dans les textes papyrologiques. Daniel Bonneau, papyrologue, spécialiste de tout ce qui peut avoir trait au Nil et à ses eaux, avait fait un relevé dans une publication de 1982 de ces zones qu'elle appelle fourrées aquatiques et montrait qu'elles entouraient en réalité l'ensemble de la région d'une sorte de ceinture verte. À partir de l'époque romaine, on sait que ces drumoi sont des propriétés impériales dont le droit d'usage ou d'exploitation était concédé ou loué pour une durée déterminée et constituait ainsi une source de revenus pour l'État. Un bel exemple d'exploitation des papyrus de ces drumoi nous est livré par un document qui contient justement une demande de concession datée du 18 juin 26 après notre ère pour un drumos appartenant à Livie, la veuve d'Auguste, et aux enfants de Germanicus. Drumos qui s'étend, nous dit le texte, entre les villages de Théoxénis et Philotéris, ce qui représente une bande d'une trentaine de kilomètres à l'ouest du Fayoum. En l'occurrence, l'Égyptien Artotès y sollicite le droit de récolter les papyrus et autres roseaux pour en faire des nattes et ensuite les vendre. Ces nattes devaient constituer un des usages les plus répandus de ces papyrus sauvages, non seulement pour la vie quotidienne, mais un papyrus nous indique qu'elle servait aussi, par exemple, en batellerie, notamment pour la couverture des cabines. Un autre texte nous montre qu'on exportait, depuis le Fayoum à dos de chameau, des lots de cordages faits aussi en papyrus et utilisés cette fois en contexte naval. Et pour rester dans la batellerie, un autre texte confirme ce que disait déjà Hérodote à propos du papyrus servant à tisser les voiles des embarcations fluviales. On ne peut par ailleurs ne pas mentionner les petites embarcations égyptiennes au profil élancé, entièrement faites de tiges de papyrus et qui ne manquent pas de surgir dans l'imaginaire lorsqu'on évoque un paysage nilotique. La célèbre mosaïque de Palestrina montre bien que ce type d'embarcation primitive en papyrus devait être encore en usage en Égypte à la fin du IIe siècle avant notre ère, et sans doute encore plus longtemps, puisque la barque en papyrus fait une apparition un peu étonnante dans un texte magique grec rédigé par un praticien de la région thébaine au IVe ou Ve siècle de notre ère. Il s'agit en l'occurrence d'un sort pour attraper une femme incontrôlable, sort qui fonctionnera à condition de disposer une lampe sur une barque en papyrus et de réciter la bonne formule au moins 6 fois. Pour se faire une meilleure idée de ces barques en papyrus, il faut aller regarder l'artisanat traditionnel éthiopien sur les bords du lac Tana. Là, le papyrus continue à pousser de manière spontanée et les habitants font perdurer un savoir-faire qui leur permet encore aujourd'hui de naviguer sur le lac à bord de leur papyrella qu'ils appellent là-bas des tankwa. Le modèle miniature, réalisé par des enfants de la région à destination des touristes et exposé dans la première section de l'exposition, me permet d'ailleurs d'aborder les usages domestiques et plus intimes peut-être du papyrus en Égypte. Le domaine des jouets n'est pas en reste, puisque l'archéologie a permis de retrouver des poupées en fibres de papyrus, ici celles du milieu provenant d'ailleurs d'une petite maison de Karanis dans le Fayoum. Et pour s'en faire là aussi une meilleure idée, il n'est pas inutile de la comparer à celle qui est à droite et qui est un petit peu mieux conservée, qui constitue une version sans doute plus réussie du même type d'objet. Et on pourrait encore ajouter les balles faites de bandes de papyrus entrelacées. Celle qui est présentée ici, à gauche, n'est pas datée, mais on en retrouve de similaires sur un site, sur le site gréco-romain de Tep-Tunis, à la fois en papyrus et dans d'autres matériaux. Un petit texte permet de le remettre en contexte. Il s'agit d'un fragment de lettre dont le début est perdu, mais la fin permet de donner vie à ce type d'objet. L'expéditeur indique ainsi « Le petit Menkès, qu'on pourrait aussi appeler Menkès Junior, a fait envoyer à ton fils Olumbas deux balles en fibre de palmier par l'intermédiaire de Salvios. » Il salue ensuite toute la maisonnée, comme de coutume dans ce type de texte. On ne sait pas d'où provient ce texte, mais on peut supposer que dans le Fayoum, ces balles de fibres devaient être réalisées en fibres essentiellement de papyrus. En somme, vous le voyez, le papyrus pouvait servir un petit peu à tout. Et comme le fait remarquer le botaniste grec Théophraste au début du IIIe siècle avant notre ère, l'usage apparemment le plus répandu est peut-être finalement celui auquel on s'attend le moins. Après avoir décrit la plante, il expose ainsi ses usages. On utilise les racines en guise de bois, non seulement comme combustible, mais aussi pour confectionner toutes sortes d'objets mobiliers, car le bois est abondant et de belle qualité. Le papyrus, proprement dit, il faut comprendre ici qu'il parle de la tige, a une foule d'usages. On en fait des embarcations, comme on a vu, avec le libère, on tresse des voiles, des nattes, une sorte de vêtements, des matelas, des cordes et bien d'autres ustensiles. Mais ce qui frappe le plus les étrangers, ce sont les livres, biblia. Mais le papyrus fournit aussi et surtout une contribution très importante à l'alimentation. Dans les campagnes, tout le monde mâche le papyrus cru, bouilli ou grillé. On en avale le jus et on en rejette les fibres mâchées. Et Hérodote, un peu plus tôt, a lui-même jusqu'à donner une recette plus précise de papyrus, puisqu'il nous dit « Ceux qui veulent tirer du papyrus un mets vraiment délicat » le font cuire à l'étouffée dans un four chauffé au rouge et le mangent ainsi préparé. Et cette tradition égyptienne, qui surprend peut-être un peu les Grecs, les a conduits d'ailleurs à créer spécialement un mot pour nommer cette habitude égyptienne, un mot qui n'est utilisé qu'une fois, et qui est papyrophage. Signalons néanmoins que le papyrus fait partie des plantes consommées encore aujourd'hui, puisqu'en Afrique centrale, on consomme la moelle des tiges séchées, tandis qu'en Afrique australe, on en mastique la moelle, comme on le fait avec la canne à sucre. Le papyrus a par ailleurs une foule d'autres usages médicaux et on l'apprécie notamment sous la forme de papier brûlé pour ses propriétés cicatrisantes. Il apparaît en tant que tel dans la pharmacologie égyptienne, puis grecque et même à l'époque médiévale arabe. Ainsi, Ibn al-Baytar, savant spécialiste de botanique et de pharmacologie qui voyage en Égypte au XIIIe siècle, intègre à son traité des simples non seulement ce que disaient déjà les médecins grecs Dioscorides et Galien du papyrus, mais il complète avec des notes prélevées cette fois dans la pharmacologie arabe. Il indique ainsi le papier brûlé de papyrus, si on le fait entrer dans les dentifrices, resserre fortement les gencives et les empêche de saigner. On en répand avec succès sur les ulcères et les excoriations aux talons produits par les chaussures. Les cendres de papier entrent avantageusement dans les lavements administrés contre les ulcères des intestins. Les fumigations de papier brûlé sont utiles contre le coryza. Enfin, et on en revient là à la papyrophagie, si après avoir mangé de l'ail ou de l'oignon ou bu du vin, on mâche du papyrus, l'odeur de ces substances disparaît. On pourrait énumérer longuement les usages, mais il reste encore à aborder ce qui, dans le papyrus, et je reprends les mots de Théophraste, frappe le plus les étrangers, à savoir les livres. Si, comme on a vu, les drumeuils du Fayoum étaient des réserves où le papyrus poussait de manière sauvage, spontanée, il y poussait aussi vraisemblablement de manière irrégulière, puisque les eaux de la crue du Nil n'y arrivaient que de manière indirecte, et les textes nous apprennent que ces drumeuils s'assèchent progressivement à l'époque romaine. Or, pour la production de papier de qualité, a fortiori dans la quantité industrielle qui devait permettre d'expédier des rouleaux dans l'ensemble du monde méditerranéen, il fallait une production abondante, homogène et régulière de tiges de papyrus. C'est dans le delta que les conditions étaient réunies. Là, c'est donc un paysage sans doute quelque peu différent qu'il faut se représenter. D'ailleurs, la terminologie change, elle aussi. On ne parle pas là des drumeuils ou forêts aquatiques, mais on utilise dans les textes l'expression technique de Helos papyricon, littéralement « marais à papyrus ». Là, les papyrus suivent un régime de culture parfaitement réglé. Pour s'en faire une idée, il faut conjuguer les informations tirées des sources littéraires à celles que l'on trouve dans les textes documentaires. Mais pour une première approche, je vous propose de suivre le romancier Achille Tatus, qui fait de ces marais, dont il est familier, le cadre temporaire des aventures de ses héros, le Cypé et Clitophon. Soucieux de son lectorat grec avide d'exotisme, il prend le temps d'expliquer les particularités du milieu marécageux du Delta et de ses habitants, en l'occurrence des bouviers, de manière à mieux plonger son public au cœur d'un paysage variant au gré de la crue annuelle du Nil. Je cite « Lorsque le Nil transforme en mer toute cette terre, il y crée des marais qui, chaque fois que le Nil se retire, restent, mais avec une moindre quantité d'eau et la vase amenée par l'eau. Sur ces marais, les bouviers marchent et naviguent. Aucun autre bateau que ceux qui ne contiennent qu'un seul homme ne peut y naviguer. Tout ce qui est étranger à l'endroit, la vase l'attaque et s'en rend maître. Les bouviers, eux, ont des embarcations petites et légères et peu d'eau leur suffit. Et si l'endroit devient complètement sec, les bateliers chargent l'embarcation sur leur dos et la portent jusqu'à ce qu'ils rencontrent à nouveau l'eau. C'est au milieu de ces marais que sont disséminées quelques îles. Celles qui sont dépourvues de maisons sont plantées de papyrus. Les rangées de papyrus y sont serrées, mais juste assez écartées pour que ne puisse, entre chacune d'elles, se tenir debout qu'un seul homme. Et au-dessus, la chevelure des papyrus comble l'intervalle laissé entre leurs rangs serrés. Vous voyez à gauche une photo récente prise sur une plantation moderne de papyrus dans le delta du Nil, en Égypte, dans le village d'Al-Karamous. J'y reviendrai dans un instant. Cette photo me paraît illustrer relativement bien les réalités décrites par Achille Tatus, réalité qu'on a d'ailleurs proposé de localiser dans le nord-est du delta, à proximité du lac Manzala. On glane par ailleurs, dans la littérature, des informations sur la localisation d'autres plantations de ce genre. Le géographe Strabon indique que du papyrus pousse non loin d'Alexandrie, le long du lac Mariotis, mais il n'y est pas cultivé et ne convient donc guère à la production du papier. Il faut entrer au cœur du delta, d'après Pline l'Ancien, pour cela. Ce dernier mentionne ainsi une abondante production de papyrus dans la région de Saïs. Les textes documentaires indiquent quant à eux un village qui se trouve au nord de Saïs, ainsi que les régions orientales du delta, notamment autour de Boubastis et de Tanis, c'est-à-dire, là encore, à proximité du lac Manzala, où le papyrus sera encore observé à l'état sauvage au XIXe siècle, ainsi qu'à Damiette. Quelques textes permettent de rentrer au cœur de ces cultures, et c'est notamment le cas de celui-ci, un contrat de location d'un Hélos papyricon pour une durée de 3 ans, à compter de l'an 5 avant notre ère, qui montre que ce type de plantation pouvait faire l'objet d'une gestion privée, détail qui a son importance puisqu'il montre aussi que la culture du papyrus ne faisait pas l'objet d'un monopole d'État, comme on a longtemps pu le croire, en tout cas à partir de l'époque romaine. En l'occurrence, le marais appartient ici à une certaine Dionysia d'Alexandrie et à son fils. Nous ne connaissons pas la taille de l'exploitation ni sa localisation exacte, mais le contrat prévoit un loyer de 5000 drachmes d'argent par an, avec un paiement mensuel qui passe de 250 drachmes par mois entre septembre et février à 583 drachmes par mois entre mars et août, soit plus du double. Le contrat comprend en outre un supplément en nature de 100 charges de 6 brassées de tiges par jour, soit 600 brassées par jour que se réserve la propriétaire. De nombreuses clauses prévoient en outre différentes interdictions, à savoir dépasser les tarifs en vigueur dans la localité pour le paiement du personnel engagé, utiliser des outils susceptibles d'abîmer les plants, surexploiter les ombelles au détriment des tiges, utiliser les tiges pour la confection et la vente de produits tressés, sous-louer la plantation, y laisser vaquer les animaux. Elle prévoit aussi des obligations, cultiver l'ensemble de la plantation ou s'occuper de l'entretien des voies de navigation et canaux d'irrigation à travers la plantation. Au-delà du fait que ce contrat montre bien que les plantations étaient exploitées toute l'année, il laisse aussi entrevoir l'immense capacité de production de la région qui semble doubler entre mars et août, période où l'eau est en basse, le travail dans les plantations devait être facilité. Quant aux clauses restrictives concernant l'exploitation des plantes pour leurs ombelles ou pour la fabrication d'objets tressés, elles montrent qu'il s'agissait d'une production avant tout destinée à la manufacture du papier. De même d'ailleurs que la rente journalière qui permet d'assurer l'approvisionnement en tiges fraîches des ateliers de manufacture. Enfin, les autres clauses devaient viser quant à elles à assurer la qualité et l'homogénéité de la production et par là la rentabilité économique de l'exploitation sur le long terme. C'est vraisemblablement à proximité directe de ces plantations que se trouvaient les ateliers de manufacture du papier. S'il faut reconnaître que le détail des procédés de transformation de la plante en papier nous échappe encore, un seul texte, aussi célèbre qu'obscur, nous permet d'en reconstituer les grandes lignes. Précisons que le texte a été écrit par un Romain du 1er siècle qui n'a vraisemblablement jamais vu lui-même la manufacture de papier. Par ailleurs, le détail laisse encore planer bien des doutes, qu'il s'agisse de l'interprétation de passages ou de vocabulaire technique ou la cohérence générale du texte. Il s'agit d'un passage extrait de l'œuvre colossale du naturaliste Pline l'Ancien, que je citerai en l'occurrence dans sa dernière traduction donnée par Daniel Delattre récemment, Daniel Delattre, grand spécialiste des papyrus d'Herculanum, que vous verrez ici à ma place la semaine prochaine, donc dernier savant en date à s'être confronté à ce texte difficile. Pour rendre au texte une cohérence générale qui lui faisait défaut, il a notamment proposé d'extraire du corps du texte certains passages pour les reléguer au statut de notes de commentaire, parce qu'en apportant des précisions, ces passages avaient tendance, en fait, à brouiller la logique du texte principal. Il a par ailleurs confronté les points qui restaient problématiques aux derniers apports de l'archéologie expérimentale représentée actuellement en la matière par Corrado Basile et ses collègues du Museo del Papiro de Syracuse. Et il a offert sur ces sujets une utile mise au point sur certains de ces passages. Alors chaque mot de ce texte mériterait un commentaire. Je ne m'arrêterai ici que sur les plus importants. Voici donc comment le texte commence. C'est en débitant cette tige aiguë en pellicule, comprendre en lamelles, très fine, mais aussi large que possible, qu'on prépare le papier. Cette première phrase, déjà, contient une expression hautement problématique. Dans la précédente édition de référence en France, la même phrase est ainsi traduite. Pour fabriquer le papier, on sépare à l'aiguille les fibres de papyrus en bandelettes très minces et aussi larges que possible. Interprétation du texte qui a donné lieu à l'imagination d'une méthode consistant à dérouler la tige en fines pellicules à l'aide d'une aiguille plutôt qu'à découper des lamelles dans la moelle à l'aide d'un outil tranchant. Cette méthode de l'aiguille, dite méthode Hendrix, du nom de son inventeur, devait permettre d'obtenir des lamelles beaucoup plus larges et donc un résultat final beaucoup plus régulier. Néanmoins, les expérimentations récentes ont conduit les papyrologues à exclure cette méthode parce qu'elle s'est révélée beaucoup trop longue et délicate à mettre en place, c'est-à-dire qu'en pratique, elle est irréalisable dans le cadre d'une production industrielle. Je reprends le texte. Sa partie médiane fournit le papier de première qualité et les qualités suivantes sont fonction de l'ordre de la découpe. L'éditeur a ici déplacé en note de commentaire un premier développement sur les différentes qualités de papier. Depuis le papier que Pline dit « hiératique », c'est-à-dire autrefois réservé aux seuls rouleaux religieux, d'après l'auteur, jusqu'au papier dit « emporétique », impropre à l'écriture, qui sert alors surtout de papier d'emballage pour les marchandises. On tisse chaque papier, c'est-à-dire chaque feuillet, en utilisant une forme rectangulaire. Cette forme doit désigner un plateau ou un support, peut-être une table, dont on suivra la forme pour réaliser les feuillets. Donc cette forme doit être mouillée d'eau du Nil. Le liquide fangeux confère leur force au collage. On sait aujourd'hui, grâce à des analyses chimiques, et je vous renvoie là à l'excellent travail consacré au papyrus par Michel Mosignac et Roger Pratt à l'université de Jussieu, que le pouvoir collant appartient au suc des seules fibres. Mais ce pouvoir collant disparaît dès que les fibres sèchent, d'où la nécessité de les maintenir humides en permanence dans de l'eau pour qu'elles gardent leur adhésivité naturelle. Pas besoin de colle supplémentaire. On commence par étendre en ligne droite sur la forme la fibre de papyrus bien étalée et aussi longue que possible. Après rognage, à chaque extrémité de ce qui dépasse, on parachève le treillis avec une couche de fibre perpendiculaire. On écrase le tout à l'aide d'une presse et en séchant au soleil, les deux couches se soudent. Comme la qualité des fibres diminue des plus voisines du milieu de la tige aux moins bonnes, chaque stipe ne procure jamais plus de 20 couches, soit, d'après l'interprétation de Daniel Delattre, une fois les couches associées deux par deux, 10 feuillets. Et il faut se rappeler, là encore, que les papyrus pouvaient atteindre dans l'Antiquité et dans des zones comme en Afrique tropicale aujourd'hui, jusqu'à 5 mètres de haut et non pas 1 mètre de haut, comme vous pouvez le voir dans la cour du collège. Voici les grandes lignes donc, de la production d'un feuillet de papyrus, unité de base qui sert ensuite par véritable collage, cette fois, à produire le rouleau, l'unité livresque et commerciale par excellence, obtenue par juxtaposition et collage de tels feuillets, en prenant soin à chaque fois à ce que les fibres soient correctement alignées. Vous avez ici à gauche une vue en transparence d'un rouleau ancien conservé à la Sorbonne, où apparaît bien cette zone de collage entre deux feuillets qu'on appelle en grec cholésis. Le côté, qui présentait alors les fibres horizontales, constituait la face interne du rouleau, celle qui était destinée à recevoir le texte, texte que l'on écrivait en colonne. Dans son format standard, le rouleau faisait en moyenne 30 cm de haut et associait 20 feuillets, soit environ 3,40 m. Et c'est à partir de cette traditionnelle unité de base que l'on pouvait ensuite débiter des coupons en fonction des besoins quotidiens. À partir du 1er siècle, les pratiques de lecture et d'écriture évoluent, puisqu'arrive le livre Codex. C'est alors toujours à partir du rouleau qu'on fabrique ce dernier. On découpe dans le rouleau des feuilles que l'on plie ensuite et que l'on assemble de manière à former un cahier, c'est-à-dire le codex. Plus solide, plus maniable, plus économique que le rouleau, puisqu'on utilise alors les deux côtés des feuilles, ce format fait notamment naître la notion de page qui modifie les habitudes de lecture en permettant la lecture sélective. Il est ainsi rapidement adopté comme support privilégié des textes juridiques, c'est de là que vient notre mot code, ainsi que des textes chrétiens, et il finira par prendre définitivement l'avantage sur le rouleau à partir du IVe siècle. Mais revenons-en à Pline et au papier. Après avoir livré la méthode de manufacture, il indique les qualités d'un bon papier, à savoir finesse, densité, blancheur et poli. Et vous pouvez admirer, ici à droite, la régularité avec laquelle les fibres de la plante sont amenées à s'entrecroiser entre deux zones de collage sur un papyrus ancien, assurant ainsi au support souplesse et résistance et aux calames amenées à courir dessus douceur et parfaite absorption de l'encre. À gauche, vous voyez en comparaison des vues en transparence d'essais modernes qui en révèlent tous les défauts. En haut, une feuille, réalisée selon la méthode Hendrix, qui présente des trous entre les lamelles, conséquence du rétrécissement des lamelles au séchage, visiblement sous-estimé. En dessous, c'est le défaut inverse qui apparaît. Le chevauchement excessif des lamelles produit une feuille de qualité grossière. À eux deux, ces exemples doivent suffire à montrer la part de mystère que conserve encore aujourd'hui le savoir-faire des anciens Égyptiens. Alors comment se fait-il que ce savoir-faire, mis en œuvre pendant plus de 3000 ans, se soit aussi soudainement perdu? On situe le grand remplacement du papyrus par le papier entre le Xe et le XIe siècle. Mais au XIIe siècle, déjà, le grand botaniste Al-Nabati note que même si la plante est toujours présente en Égypte, le papyrus en tant que support d'écriture est déjà tombé dans l'oubli. Et de nous livrer une recette de fabrication qui rappelle de loin celle de Pline, mais introduit des éléments qui paraissent fantaisistes. Au cours des siècles suivants, certains voyageurs occidentaux, médecins et naturalistes, notent encore sa présence dans le delta, tandis que d'autres, comme on l'a vu en introduction, rapportent qu'on confond le papyrus avec le bananier. Après de dernières observations dans la région de Damiet à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, le glas du papyrus en Égypte sonne quand le jardinier en chef des palais, parcs et jardins du Caire, un ingénieur agronome belge, enregistre la complète disparition du papyrus. On est à la fin du XIXe siècle et il en profite pour organiser sa réintroduction. Il nous dit « Le papyrus antiquorum, donc le papyrus des anciens, a complètement disparu de l'Égypte. Nous devons à l'obligeance de M. Rivière, ancien jardinier en chef du jardin du Luxembourg à Paris, de nous avoir donné une demi-douzaine de pieds de papyrus que nous avons rapportés en Égypte en 1872 et que nous avons plantés au jardin de Choubra et dans plusieurs jardins particuliers du Caire. Ce qui a été bien plus facile que d'en faire venir du haut Nil blanc, où les îlots sont couverts de fourrés de papyrus dans lesquels se vautrent les crocodiles, les hippopotames et les rhinocéros. En Égypte, on le cultivait, paraît-il, anciennement, aux environs de Damiet, pour faire du papier avec l'écorce de la tige. Et c'était un article de commerce important qui subsistait encore au temps des califes. À sa place, on cultive aujourd'hui le riz, et les habitants de Damiet en ont complètement perdu le souvenir depuis que le papier de chiffon a détrôné celui de papyrus. Alors on peut se demander pourquoi et comment ces immenses plantations du Delta qui livraient du papier à l'ensemble du monde méditerranéen ont pu réduire ainsi au point de disparaître. Il faut y voir sans doute une conjonction de facteurs, et à ce titre, le parallèle avec les marais à papyrus actuels est assez instructif. Il est frappant, mais finalement assez peu étonnant, de constater que l'étendue des marais à papyrus locaux en Afrique de l'Est et en Afrique centrale est actuellement en train de diminuer drastiquement, en partie à cause de la pollution des eaux, mais surtout, et un peu comme dans le Fayoum à l'époque ptolémaïque, à cause du drainage et du remblayage des zones humides pour l'extension des zones urbaines et agricoles. Des études ont montré qu'au Kenya, l'étendue des marais à papyrus aurait ainsi diminué de 50% entre 1969 et 2000. Et on s'inquiétait en 2007 que les marais à papyrus des bords du lac Victoria, une des sources du Nil donc, puissent avoir complètement disparu en 2020. Mais l'exemple que je trouve le plus parlant se trouve en fait en Égypte, aujourd'hui même. Il faut là un peu de contexte. On retrouve, au cours des dernières décennies, quelques plans de papyrus apparemment sauvages dans le Wadi Natroum en 1968. On a signalé aussi plus récemment quelques peuplements sauvages de papyrus dans le Delta. Mais si le papyrus est aujourd'hui visible en Égypte le long du Nil, c'est principalement grâce aux travaux et expérimentations lancés à partir des années 60 par l'Égyptien Hassan Ragab, fondateur d'un institut du papyrus au Caire. Ayant lui-même passé des années à étudier la plante, il a également mis au point une méthode pour en faire du papier et a fait ainsi redécouvrir localement la plante et ses usages. C'est ainsi que la culture du papyrus et la manufacture du papier a pu se redévelopper comme un savoir-faire local dans certains villages du Delta. Et c'est le cas du village d'Al-Karamous, dans la région de l'ancienne Boubastis, que l'on a vu comme un centre de production de papyrus à l'époque romaine. Tout a commencé là-bas à la fin des années 70. Après avoir assisté à une mission scientifique avec Hassan Ragab, un habitant de ce village, professeur d'art plastique et spécialiste en papyrologie, a voulu appliquer le même procédé que son prédécesseur et a eu l'idée de faire du papier qui porterait des illustrations artistiques pour le vendre aux touristes. Après avoir acheté des semis provenant du Soudan, il les a cultivés sur sa propriété, a développé un atelier, formé la population locale. Rapidement, l'activité est devenue florissante et les terres réservées aux papyrus se sont alors étendues jusqu'à atteindre une superficie de 250 hectares. Le nombre d'artisans s'élevait alors à 400 personnes. Mais c'était sans compter les récentes crises politiques et économiques successives, dont évidemment la pandémie actuelle, réduisant le tourisme en Égypte et donc les débouchés pour la production du papier. Les ateliers ont fermé petit à petit, et d'après le reportage sur lequel je me fonde ici, publié il y a à peine 2 semaines, il ne resterait aujourd'hui plus qu'une cinquantaine d'hectares de culture de papyrus et une cinquantaine d'artisans encore en activité. Artisans qui craignent que leur savoir-faire ne disparaisse, encore une fois. En somme, on touche là, il me semble, à l'extrême fragilité d'un milieu sensible à la pression économique, et on comprend peut-être un peu mieux comment ces forêts sans branches, décrites au VIe siècle par Cassiodore, ne soient déjà plus quelques siècles plus tard, lorsque le papyrus a définitivement perdu la bataille contre le papier venu de Chine, qu'un vague souvenir relégué au temps des anciens Égyptiens. Ironie du sort, c'est finalement en Sicile, à l'écart de son continent d'origine, que le papyrus avait trouvé une nouvelle terre d'accueil, où il s'est du reste parfaitement acclimaté, peut-être depuis l'Antiquité déjà, attendant patiemment d'être redécouvert et introduit alors à partir de là dans la plupart des jardins botaniques européens. Il y est étudié par les savants qui, très progressivement, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, finirent par s'accorder pour y reconnaître la plante, dont on avait oublié jusqu'au nom, qui avait donné à la civilisation occidentale son tout premier papier. Je vous remercie.